Et il est 19h sur Europe 1. Et ils sont 27 membres du nouveau gouvernement dirigé par Elisabeth Borne. 14 hommes, 13 femmes, beaucoup appartenaient déjà à l'ancienne équipe.
Nous serons à l'Elysée dans un instant et nous suivrons notamment la passation de pouvoir au ministère de l'Éducation. Pape Diaye succède à Jean-Michel Blanquer, deux personnalités radicalement différentes. Dans ce journal également, l'apparition d'un premier cas de variole du singe en France et puis l'inquiétude aux urgences. Plus d'une centaine de services en France n'arrivent plus à remplir leur mission à cause du manque de soignants.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, les orages ont quitté les Hauts-de-France et le bassin parisien. Ils stationnent actuellement sur les Ardennes et la Marne. Plus de 5000 impacts de foudre ont été relevés sur les Ardennes et demain, on respirera en Alsace et sur un bon tiers nord. Et la chaleur persistera du sud-ouest aux régions centre.
Merci Valérie Darmon. Météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a donc mis fin cet après-midi à un suspense qui durait depuis 4 jours. On va rejoindre Jacques Seret en direct du palais présidentiel. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Avec vous, on fait le point sur les personnalités qui arrive et sur celle qui reste, à commencer par Bruno Le Maire.
Oui, il voulait à tout prix rester à Bercy. Bruno Le Maire garde le ministère de l'économie et son portefeuille est élargi aux finances et à la souveraineté industrielle et numérique. Autre poids lourd du gouvernement dont l'affectation est inchangée, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur. Pareil pour Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. D'autres restent mais changent de Marocain. C'est le cas de Sébastien Lecornu qui passe des Outre-mer au ministère des Armées. Gabriel Attal cède le porte-parole du gouvernement à Olivia Grégoire. Il est nommé ministre délégué chargé des comptes publics. Marc Fesneau hérite du ministère de l'Agriculture. Brigitte Bourguignon succède à Olivier Véran au ministère de la Santé. Olivier Véran, justement, devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Amélie de Montchalin est nommée ministre de la Transition écologique. Enfin, il y a des nouveaux arrivants et des surprises. Pape Ndiaye, universitaire agrégé d'histoire, succède à Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, qui, comme Jean-Yves Le Drian, ne reste pas. C'est Catherine Colonna, ancienne ministre sous Jacques Chirac, qui rejoint le Quai d'Orsay et devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Damien Abad, qui s'est mis en congé des Républicains hier, est nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Amélie Oueda-Castéra, ex-directrice générale de la Fédération Française de Tennis au Sport. Rima Abdul-Malak, ex-conseillère culture d'Emmanuel Macron à l'Élysée, au ministère de la Culture. 27 nominations au total. Et avec la première ministre Elisabeth Borne, ce gouvernement est parfaitement paritaire. 14 hommes et 14 femmes.
Un Jacques Seret en direct de l'Élysée.
Parmi les arrivées les plus marquantes, et on en a beaucoup parlé pendant cette heure de la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match, celle de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation.
Oui, cet historien va donc remplacer Jean-Michel Blanquer. Vous assistez à la passation de pouvoir entre les deux hommes. Arthur Delaborde, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout les oppose.
Exactement, c'est un vrai choix de rupture de la part d'Emmanuel Macron. D'abord, car Pape Ndiaye est un homme très marqué à gauche, qui avait voté notamment, qui avait appelé à voter pour François Hollande en 2012. Mais c'est surtout un changement radical qui se profile par rapport à la politique menée pendant 5 ans. Jean-Michel Blanquer s'est en effet montré très engagé dans la lutte contre le communautarisme et le wokisme à l'école. Deux termes, deux phénomènes appréhendés à l'inverse d'une manière positive par Pape Ndiaye, qui par exemple fut l'un des premiers chercheurs français à avoir développé une pensée s'inscrivant dans ce mouvement woke important des États-Unis. Cette différence notable sur le plan idéologique, on va voir si elle sera évoquée lors de cette passation de pouvoir qui est en cours rue de Grenelle. Jean-Michel Blanquer est en train de s'exprimer. Il vient de dresser un bilan insistant sur les différentes politiques menées pendant 5 ans à ce ministère de l'Éducation nationale. C'est donc un historien de 55 ans, spécialiste de l'histoire des minorités qui le remplace. Il était jusqu'à présent à la tête du palais de la Porte Dorée qui héberge le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. A noter aussi que Pape Ndiaye est connu pour certaines de ses prises de position. Il avait par exemple déclaré qu'il existe bien un racisme structurel en France, un racisme dans l'État. Il s'était aussi exprimé sur les violences policières, expliquant qu'il y avait un déni sur la question en France. On verra donc dans les prochains mois s'il atténue un peu son discours sur ces différentes questions.
Arthur Delaborde au ministère de l'Éducation, en tout cas déjà de premières critiques très sévères à l'encontre de Pap Ndiaye. Marine Le Pen le traite d'indigéniste assumé. Sa nomination est, dit-elle, la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Même son cloche du côté d'Éric Zemmour. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Pap Ndiaye va s'en charger. Fin de citation. En revanche, Jean-Luc Mélenchon se félicite de cette nomination d'un grand intellectuel.
Bon, la liste des ministres, on l'a. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin.
Oui, avec vous, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va revenir sur la composition de cette nouvelle équipe. Casting mûrement réfléchi qui fait la part belle aux sortants.
Oui, premier renseignement, c'est un gouvernement de continuité avec un trio de têtes qui ne bouge pas. Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, désormais numéro 3 du gouvernement, et Éric Dupond-Moretti qui reste à la justice. Sébastien Lecornu est promu ministre des Armées. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, réalise sans doute la plus belle performance en étant désormais ministre des Comptes Publics. Continuité donc, mais aussi penchant à gauche. On l'a écouté tout à l'heure avec Arthur Delaborde, avec la nomination de Pap Ndiaye à l'Éducation nationale, qui, par exemple, on retrouvait une phrase tout à l'heure, il appelait il y a quelque temps à faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. Autre élément, c'est la rétrogradation du ministre de la Santé, Olivier Véran, dont l'image associée au Covid le conduit désormais à la fonction de ministre délégué aux relations avec le Parlement. Enfin, mis à part les entrées attendues de Damien Abad, ministre des Solidarités, et Christophe Béchu aux collectivités territoriales, pas vraiment de prise de guerre à droite. D'ailleurs, Catherine Vautrin, qui a failli devenir Premier ministre, et le poids lourd Éric Woerth ne figurent pas sur la liste. Pour terminer, au Quai d'Orsay, c'est une des plus grandes diplomates françaises, Catherine Colonna, qui succède donc à Jean-Yves Le Drian, ancienne porte-parole de Jacques Chirac à l'Élysée. Celle qui est aujourd'hui ambassadrice de France à Londres s'apprête donc à traverser la Manche pour prendre ses fonctions demain.
Louis de Ragnel.
Et puis, depuis l'annonce du gouvernement, eh bien, les passations de pouvoir s'enchaînent. On les voit direction le ministère de la Culture, rue de Valois, à Paris.
Au revoir Roselyne Bachelot. Bonjour Rima Abdul-Malak. Ce nouveau visage est l'ancienne conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron. Passation de pouvoir qui vient de se terminer, Alexandre Chauveau.
Oui, absolument. Rima Abdul-Malak vient juste de terminer son discours au cours duquel elle a eu une pensée pour ses parents qui ont fui Beyrouth pendant la guerre, son prof de français qui lui a donné le goût du théâtre plus jeune et où elle a présenté ses principaux chantiers, au premier rang duquel la réforme de l'audiovisuel. Rima Abdul-Malak, franco-libanaise, inconnue du grand public, mais qui à 43 ans a déjà une longue carrière dans le milieu, issue du monde associatif. Elle a été directrice de l'association Clowns sans frontières qui organise des événements culturels pour les enfants dans les zones de conflit. Mais elle est aussi passée par la mairie de Paris à l'époque de la Noé avant d'être attachée culturelle à l'ambassade de France à New York. Alors cette passation a débuté par un long discours de Roselyne Bachelot, 25 minutes, au cours desquelles elle a mis en avant son action rue de Valois, 680 jours passés au ministère de la Culture, son bilan, 300 déplacements, la mise en sécurité des lieux patrimoniaux après l'incendie de Notre-Dame, la promotion des festivals, mais aussi la mise en place du pass culture en février 2019. Roselyne Bachelot, très longuement applaudie par les employés du ministère.
Alexandre Chauveau, rue de Valois pour Europe 1.
Et vous l'aurez peut-être noté, dans la liste de la nouvelle équipe gouvernementale, le ministère de l'Énergie fait son grand retour.
Oui, ministère de la Transition énergétique, précisément. Il sera piloté par Agnès Pannier-Runacher. La dernière fois que ce ministère a vraiment existé à part entière, Élise Dangean, c'était il y a 30 ans.
Et oui, il faut remonter à 1992 pour trouver un ministre français véritablement en charge de l'énergie. C'était sous François Mitterrand. Alors certes, il y a eu Éric Besson qui a géré ces questions pendant à peine un an en tant que ministre de l'Industrie et du Numérique au sein du gouvernement Fillon III. Cette fois, il s'agit donc d'un vrai ministère et Agnès Pannier-Runacher va avoir du pain sur la planche. Premier enjeu pour la ministre fraîchement nommée, la relance du nucléaire voulue par Emmanuel Macron pour répondre à nos besoins croissants en électricité. Elle va devoir gérer le renouvellement d'un parc nucléaire vieillissant. 12 de nos 56 réacteurs sont actuellement à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. Et puis il y a la souveraineté énergétique, enjeu capital à l'heure où l'Europe cherche des parades pour se passer du gaz et du pétrole russe. Tout ça sur fond d'objectifs environnementaux fixés par Bruxelles. Elisabeth Borne s'appuiera donc à la fois sur Agnès Pannier-Runacher et sur Amélie de Montchalin pour la transition écologique.
Élise Dangean, et pour découvrir la photo de famille de cette nouvelle équipe, il faudra attendre lundi matin 10h, ce sera le premier Conseil des ministres.
19h09, voilà ce qu'on pouvait dire du gouvernement. On va marquer maintenant une pause dans le journal d'Hélène Zélani. On va parler de la variole du singe, c'est une maladie désormais recensée en France. À tout de suite. Europe.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
19h11, la suite de votre journal. Hélène Zelani, après les États-Unis et plusieurs pays européens, la France annonce un premier cas de variole du singe.
Maladie rare venue d'Afrique, elle a été détectée en région parisienne sur un homme de 29 ans qui pourtant n'avait pas voyagé dans un pays où circule le virus, Yasmina Katou.
Oui, dès la suspicion de son infection, l'homme a été pris en charge et en l'absence de symptômes de gravité, il a été isolé à son domicile. Toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient sont en cours de recensement pour être averties. Alors il n'y a pas d'inquiétude particulière puisque le plus souvent la variole du singe est bénigne. C'est un virus qui se transmet facilement de l'animal à l'homme par contact physique. Il provoque de la toux, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures. De gros boutons comme des cloques peuvent se répandre sur tout le corps. Et une fois infecté, les symptômes mettent entre 6 et 21 jours à apparaître. Il n'existe pas de traitement pour la maladie, mais elle guérit souvent d'elle-même en 3 semaines environ. Si les personnes contaminées sont repérées et isolées pendant toute la durée des symptômes, il n'y a pas de risque qu'une épidémie se propage dans le monde.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1 au Royaume-Uni, on compte désormais 20 cas. La maladie a aussi été détectée en Espagne, en Italie, au Portugal, au Canada et aux États-Unis. Intoxication alimentaire dans une cantine de Châtenay-Malabry en banlieue parisienne. 363 élèves et 20 adultes ont été malades. Des analyses sont en cours pour savoir d'où venait l'intoxication.
La santé toujours, l'alerte rouge est déclenchée aux urgences où on manque cruellement de soignants.
Oui, alerte lancée par l'association SAMU Urgences de France qui parle de situations catastrophiques. 120 services sont obligés de limiter leur activité ou se préparent à le faire. De mémoire d'urgentiste, on n'a jamais connu une telle tension avant même la période estivale.
Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, un, ça commence très tôt dans la saison. C'est-à-dire que dès le mois de mai, des structures d'urgence sont fermées et cela impacte à la fois des grosses structures et des moyennes, ce qui n'était pas le cas habituellement. Je crois que le terme est adapté, catastrophique, sauf que la catastrophe dure. On sort du Covid et là, à peu près un tiers des services d'urgence sont en difficulté, conduisant à une fermeture pure et simple des services, soit partielle avec des lignes de garde incomplète et donc une suractivité pour les praticiens qui restent. Et pour lequel on veut des solutions qui vont passer par un appel au 15 systématiquement avant de se rendre aux urgences. L'appel au numéro santé doit nous permettre d'identifier les patients qui ont vraiment besoin d'accéder à nos plateaux d'urgence. Et donc on veut filtrer cet accès aux urgences et c'est le message national que l'on veut faire passer.
Louis Soula, vice-président de SAMU Urgence de France. En Ukraine, les derniers défenseurs de la poche de résistance de Mariupol ont reçu l'ordre de déposer les armes pour sauver des vies. Message que le commandant du régiment, encore retranché sur le site d'Azovstal, confirme avoir bien reçu. Au total, 1908 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine se sont rendus depuis lundi. Quant aux soldats russes jugés pour crimes de guerre en Ukraine, il s'est dit sincèrement désolé, mais affirme avoir obéi à un supérieur quand il a tué un civil. Verdict lundi.
Le tennis, on est à 2 jours de l'ouverture du tournoi de Roland-Garros. Et d'ailleurs, je signale à nos chers auditeurs qu'à partir de vendredi prochain, ici même, eh bien, nous ne serons pas ici même rue des Cévennes, mais nous serons justement à Roland-Garros.
Oui, parce qu'Europe 1 est la radio partenaire de Roland-Garros. Aujourd'hui, c'était la traditionnelle journée des conférences de presse d'avant-tournoi. Favoris et favorites se sont succédés au micro, Axel May, mais aussi sur les terrains d'entraînement.
Oui. Figurez-vous que sur le cours central cet après-midi, qui était ouvert au public, les spectateurs ont pu voir le tenant du titre, Novak Djokovic, taper la balle avec le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, deux joueurs qui sont susceptibles de se rencontrer en demi-finale. Alors, on n'en est pas encore là et tout à l'heure, ces casquettes vissées sur le crâne que Novak Djokovic s'est présenté devant la presse après son expulsion, un rocambolesque d'Australie en début d'année parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Eh bien, Djoko s'apprête à disputer le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison ici à Paris et le Serbe monte en puissance.
Et je suis arrivé ici avec gagner le titre à Rome que je pense qui est très important pour mon confiance. Et je me sens bien sur les cours. Je suis inspiré et motivé d'arriver à finale.
Voilà, devant les caméras et les micros, aujourd'hui, il y a eu aussi évidemment Rafael Nadal. Hein, malgré ses 13 titres porte d'Auteuil, l'Espagnol qui traîne une méchante douleur au pied refuse de revêtir le statut de favori. On retiendra également le retour devant les caméras de la star japonaise Osaka. Après sa dépression qui a éclaté en plein Roland-Garros l'an dernier et son départ précipité de la porte d'Auteuil, un an après, l'ex numéro 1 mondial affirme toujours ressentir d'immenses vagues d'anxiété quand elle s'adresse à la presse mondiale.
Axel Mais sur Europe 1, la radio officielle de Roland Garros. Et on termine.
De mieux en mieux français, hein, Djokovic. Hein, c'est incroyable.
C'est vrai, c'est pas mal du tout.
On va finir par présenter le journal.
Et on va terminer comme on a commencé, en parlant du gouvernement, en rappelant que la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est une ancienne championne de tennis junior. Elle était jusqu'ici directrice générale de la Fédération française de tennis.
Non, mais c'est le grand écart, hein, Oudéa-Castéra, parce qu'elle est ancienne espoir féminin du tennis français et elle est énarque, honnêtement. Il y a des gens brillants comme ça. C'est assez rageant, non, quand même. Il y a des gens comme ça, très, très brillants. Bon, voilà, c'est encourageant pour la France.
Mais vous l'êtes aussi, vous l'êtes aussi.
I'm not fishing for compliments, avec l'accent. Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani. On passe à la météo, Valérie Darmon. Demain, retour du beau temps partout, chouette.
Et oui, après les orages d'aujourd'hui, le calme qui revient sur le nord de la France. Le ciel qui sera juste un petit peu chargé en matinée sur les régions du bord de Manche, plus variable l'après-midi. Ailleurs sur la moitié nord, les éclaircies qui reviennent. Au sud, le soleil et la chaleur qui dominent, excepté sur le Roussillon, toujours concerné par des entrées maritimes. La chaleur qui devient lourde sur le sud-ouest, mais aussi en vallée du Rhône, avec des maximales qui vont varier entre 21 et 25 de la Bretagne à l'Alsace, entre 26 et 30 des Pays de la Loire au Jura, entre 30 et 34 sur la moitié sud, avec des pointes à 35 sur le sud-ouest et la vallée du Rhône.
Merci Valérie Darmon. Je signale à nos chers auditeurs que pendant l'excellent journal de l'excellente Hélène Zélani, Pape Ndiaye était en train de parler et de justement donner les axes de son nouveau ministère, celui de l'éducation nationale. Il vient de terminer son allocution, donc ce que je vous propose, c'est que durant les trois quarts d'heure qui suivent, eh bien, nous écouterons ce qu'il a dit d'important à son entrée à ce ministère de l'éducation nationale, puisque c'est l'une des grandes, non pas surprises, mais en tout cas c'est l'un des personnages très remarqués de l'entrée de ce nouveau gouvernement. Elisabeth Borne, en tout cas en ce qui nous concerne, nous accueillons dans un instant Frédéric Cuvillier, qui est maire de Boulogne-sur-Mer et qui est socialiste et qui ne veut pas de la NUP. Et juste après, nous serons avec la députée MoDem Isabelle Fleuren. Restez avec nous jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.